Bonjour à tous, je voudrais ici, dans cet enregistrement, ne pas être trop long non plus, même si, y aurait de quoi dire. Eh bien, qu'entend-il par décoloniser l'inconscient, cette expression qui sémantiquement me pose problème, car la colonisation est évidemment, sur un plan, anthropologique, historique, etc., c'est quelque chose qui a toujours été d'une extrême violence. Bien sûr, les colonisateurs ont été d'une extrême violence. Alors, on peut employer, dans le champ, je veux dire, comment dirais-je, je veux dire, dans une perspective historique, au sens de la colonisation, comment dire, au niveau d'un pays sur un autre. Mais il y a aussi la colonisation au sens figuré, plus au sens propre, mais au sens figuré. Qui est un emploi, je dirais, sémantique assez récent, parce qu'au sens figuré, cette expression de colonisation est employée, mais du coup, ça accroît ça accentue, si vous voulez, la violence même de ce qui serait colonisé, toujours dans un sens figuré. Plus dans un sens propre. Alors, bon, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, quand eux, ils emploient l'expression décoloniser l'inconscient, ces auteurs, que je ne citerai pas, je pense qu'ils se retrouveront et vous les retrouverez peut-être, vous mettez sur Google, vous trouverez. Je trouve que cette expression décoloniser l'inconscient est extrêmement violente, déjà, hein, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est que ça suppose que l'inconscient a établi ses colonisés, ses colonisateurs. Enfin, peu importe. Bref, vous voyez un petit peu le paysage. On dirait un paysage d'un blockbuster, si vous voulez, américain. Quelque chose d'un paysage comme ça, spectaculaire, apocalyptique, je sais trop quoi, enfin, etc. Bon, toujours est-il que, alors, j'ai un peu regardé le contenu sur Internet. J'ai eu beaucoup de mal dans mon enquête à trouver les arguments contre Freud et contre Lacan. En tout cas, contre leur fil d'Ariane, si je puis dire, parce qu'en fait, ça restait un petit peu légèrement nébuleux. Alors, cet auteur, il aurait utilisé les concepts, théo la théorie de ces pionniers, de ces deux pionniers qui se sont suivis dans une continuité logique, si je puis dire. Donc, si vous voulez, moi je suis plutôt prudent parce que l'article qu'il y a sur l'article du Cairn, là, bon, il est assez bien fait, hein, il dit apparemment que cet auteur là s'appuie sur Foucault, sur Michel Foucault, sur d'autres que je connais pas du tout d'ailleurs, mais c'est un petit peu, on a l'impression, c'est fait un peu pour gonfler la bouée, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que pour gonfler du muscle, si vous voulez, hein, de l'air, c'est-à-dire que. Je sais pas si on peut parler de la French Theory, je crois pas que ça rejoigne forcément ça là, mais c'est vrai que ces auteurs, dont Foucault apparemment, soutiennent apparemment une divergence avec Lacan, hein. On sait très bien qu'entre Jacques Lacan et Michel Foucault, il y avait un hiatus, hein, de toute façon. Hein. Lacan était très aussi. Enfin, Lacan avait un côté un peu aussi, faut bien le dire. Comment dirais-je, un peu dogmatique, c'est un peu l'église lacanienne, hein, faut le reconnaître, à un moment donné, même jusqu'au département de psychanalyse. Maintenant, l'usage est intéressant, comment tout un chacun utilisons-nous tous ces auteurs, enfin, c'est très vaste, etc. Après, j'ai envie de dire qu'il y a un peu de parfumerie là-dedans, hein, c'est-à-dire que. On s'habille dans la société française aussi, entre autres, parce que c'est transversal avec peut-être certains courants anglo-saxons aussi, think tank, je dirais, mais on se parfume, on s'habille de ces références. Ça fait bien, ça fait celui qui a des références. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre, je pense, sociologiquement. Donc là, dans cet enregistrement, je vous place une perspective sociologique aussi. Et donc, lui, il est né en 93, en 1993, il a fait son parcours, voilà, d'une manière fulgurante, hein, Enfin, ils sont pas non plus, ils sont pas non plus peu nombreux, hein. Il y en a beaucoup qui font ça, des parcours comme ça fulgurants. Il y a une consommation, voilà, c'est ça, je veux dire, il y a une consommation énorme, boulimique, comment dirais-je, compulsive presque à la limite après leur bac, hein, après leur baccalauréat, ils entrent dans ces études pour trouver une réponse, des réponses, quelque chose qui vont pouvoir consommer immédiatement, rapidement, donc. Pour ensuite avoir les arguments dont ils pourront à l'égard desquels ils pourront émettre une distance très très importante. C'est pas du tout les ceux qui en quelque sorte appliquent de manière parfois un peu, faut bien le dire, un petit peu, je veux dire, exagéré peut-être. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, alors la théorie queer, moi j'ai lu un article de Wikipédia il y a de ça un an ou deux, je sais plus, 2 ans peut-être, ouais. Je trouvais ça très intéressant, le rapport à l'environnement. Je trouvais que dans la théorie queer, la question de la sexualité et de l'environnement étaient des choses très intéressantes. Voilà. Après, le lien, ou si indirect soit-il, avec la psychanalyse freudienne lacanienne, je vois pas. Si je comprends pas très bien ce truc de relationnel, non relationnel, je saisis pas très bien cela. Je répéterai jamais assez que la densité de la théorie freudienne et lacanienne est énorme, hein, et qu'il y a un effort de pensée qui est gigantesque, hein. Donc ça, on ne peut pas, à notre époque, compte tenu des réseaux sociaux, de l'immédiateté, faut être concis, il faut être dans la communication. On peut pas traiter ce volume, si vous voulez, d'effort intellectuel qu'ont produit Freud et Lacan. Voilà, c'est sur ça. Moi, je travaille aussi sur la relation mère-enfant. Et c'est vrai que la dialectique mère-enfant est complexe, puisqu'une petite fille devient une femme, devient une adolescente, ensuite une femme, donc elle se sépare de sa mère. Il y a des étapes, entre guillemets, on va dire ça, rituelles, qui la séparent progressivement de sa mère. Mais en même temps, voilà, c'est bon. Déjà, c'est Dolto qui a parlé de ces questions d'enfance. J'ai lu très peu de Dolto, hein. J'ai surtout lu du Freud et du Lacan, mais c'est vrai que. Et plus encore du Lacan que du Freud, hein, pour vous dire. Et puis j'ai lu les auteurs de nos enseignants que nous avions au département de psychanalyse de Paris 8 à l'époque, entre 2005 et 2010. Voilà. Mais bon, pour dire que, effectivement, donc pour conclure sur cet enregistrement, je comprends aussi que, si vous voulez, les personnes LGBTQIA+ souffrent, hein? Mais d'ailleurs, il y a d'autres endroits où les gens souffrent, hein. Dans plein d'endroits, dans plein de métiers, dans plein de milieux, dans plein d'époques, les gens ont souffert et souffrent. Bon. Simplement, à notre époque, la communauté LGBTQI+, si vous voulez, pour moi, c'est pas tant qu'elle existe, c'est plus qu'elle n'existe pas comme périmètre qui la délimiterait. Je crois qu'il y a le périmètre de limitation, enfin la démarcation avec les non-LGBT, ça reste pour moi assez ténu, assez flou, parce que, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas fait leur coming out, il y a plein de gens qui sont dans une dialectique extrêmement complexe à l'égard de ces signifiants représentatifs sur lesquels ils se projetteraient. LGBT, donc voilà, ils sont pris dans une dialectique entre le monde extérieur et leur monde intérieur. Oui, c'est plein de biais complexes, très très, c'est très alambiqué, si vous voulez, non LGBT ou LGBT. Il y a des gens qui sont dans la vie sociale, etc., qui n'ont pas fait leur coming out. Il y en a plein qui sont un peu comme un bouchon de liège sur l'océan, en train de flotter sur l'océan, ils ne savent pas à qui se rattacher. Il y en a qui se posent des questions, qui sont les deux. Bon, finalement, quand on est bi, on est dans LGBT, puisque ça fait partie des LGBT, bi. Bon. Mais si vous voulez, voyez, par exemple, si on prend la sexualité bi, c'est vaste. Enfin, je veux dire, on est dans une société où les sexualités sont démultipliées. Il y a une ampleur énorme, c'est tellement vaste la sexualité, il y a tellement de possibilités existantes que, je veux dire, qu'est-ce que c'est que les comment on appelle ça, les clubs, comment ça s'appelle déjà, ces clubs enfin, ils se retrouvent dans des soirées, dans des lieux genre spa, des spas sexuels, enfin, où ils sont... ils sont dans les trucs BDSM, je sais pas. Vous voyez, donc il y a plein de choses, je veux dire, je vous apprends rien. Mais là où je veux souligner un point important, c'est quand même le fait que. Alors, d'un côté, voilà, je le redirai jamais assez, il faut de la con, on fait un effort intellectuel absolument gigantesque. Donc réfuter un certain nombre de points rapidement me paraît un peu léger quand même. D'autre part, l'autre point, c'est qu'effectivement, on peut dire que c'est assez récent que quand même les homosexuels émergent dans leur revendication. Ils émergent pas tout seuls, je veux dire, que leur, pardon, je me suis mal exprimé, que leur revendication émerge à la surface pour respirer et donc passer par un coming out. Et puis si ce coming out n'est pas supporté, c'est une autre affaire. Enfin, il y a tout un accompagnement qui est très très précieux et d'excellente qualité et que je salue au passage de la part de professionnels à l'écoute de gens qui sont au bord ils sont au bord du précipice. Enfin, je comprends très bien que ça, c'est quelque chose de remarquable. Qu'il y ait ce soutien, je veux dire, quelle que soit la sexualité, nous sommes tous égaux, hein, vous voyez, donc, ouais, je veux dire, homme est égal à femme, homo est égal à hétéro, est égal à bi, donc voilà, bon, enfin voilà, donc c'est dans les droits universels de l'homme, dans les droits de l'homme, enfin la Ligue des droits de l'homme est très connue à ce niveau-là, je considère, c'est vrai que le mouvement LGBT, alors le mouvement queer qui va peut-être un peu plus loin, il va forcément plus loin dans les directions, notamment de l'environnement, parce que je trouve ça très intéressant le rapport avec la sexualité, si vous voulez, entre la sexualité et l'environnement, mais dont on parlait cet article de Wikipédia sur le mouvement queer. Je ne sais pas ce que vaut l'article de Wikipédia sur le mouvement queer à ce niveau-là, je ne connais pas sa véracité, sa fiabilité, son côté tangible, je ne sais pas suffisamment, mais. Du peu que j'en ai lu, voilà, j'ai plutôt une impression très, comment dire, j'étais, si vous voulez, très intéressé par cet article de Wikipédia. Donc moi, je voulais dire, pour conclure une bonne fois pour toutes, voilà, que si vous voulez, je comprends qu'il y ait une norme puissante, écrasante, hétéronormative, patriarcale, je le comprends très bien, je peux comprendre que ça pose problème. Aussi la question des virilistes, enfin je ne sais trop quoi. Tout ça est très lourd, ne serait-ce déjà que pour des gens qui sont normaux, entre guillemets, je veux dire, au niveau de la pression psychique qu'ils peuvent ressentir, enfin en tout cas de leur position qu'ils peuvent ressentir, de la façon dont ils se positionnent à un certain degré, si vous voulez, par rapport à ces hyper-hétéronormativités. On est bien d'accord que. De toute façon, les médecins vous le diront, le trop en tout est mauvais, hein, mais c'est vrai que quand il y a du trop dans ce sens-là, oui, ça ne va pas, même ça ne va pas, des gens, même. Ils ne sont pas dans des revendications LGBT, anti-hétéronormativité. Mais enfin voilà, moi je trouve que ça mériterait de ne pas exclure comme ça Freud et Lacan. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas tenir en tant que tel en soi, parce que c'est un tel poids, si vous voulez, théorique, qu'on ne peut pas réfuter. C'est très très compliqué, si vous voulez, de réfuter ça. Je pense qu'on ne peut que l'utiliser. La théorie de Freud et de Lacan, voilà. Donc c'est ce que d'ailleurs fait certainement cet auteur. Il le fait très, il le fait. Je pense voilà. Mais je crois qu'il faut, il faut pas employer cette expression décoloniser l'inconscient. Voilà ce que je crois. Sémantiquement, ça pose problème au niveau de la radicalité. On sent bien hein, le côté compulsif de ce monsieur d'avoir consommé ses études comme ça jusqu'au doctorat de philosophie, ça va très très vite. C'est compulsif, il consomme ses études. Il va absolument trouver des réponses et les dépasser, ses arguments. Il allait jusqu'au queer, jusqu'à l'anti-normativité révolutionnaire. Voilà l'aspect d'insurrection, insurrectionnel. De se libérer de ce dogme, on ne sait pas trop, théorico-normativo ou normativo-théorico, enfin, si vous voulez, hein, un peu. Parce que, comment dire, l'inconscient, si c'est Freud qui l'a posé et Lacan qui l'ont posé, comme cadre et comme référentiel, je pense que l'inconscient ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, merci beaucoup, au revoir, et bonne journée ou bonne soirée.